Donc, première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 12 à 14. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Un frère fidèle. Il précise que Sylvain est un frère fidèle. Alors, Sylvain, c'est Silas. C'est la forme de romaine de Silas, en grec, Silas qu'on connaît bien comme étant le compagnon de Paul. Alors, il n'y a rien qui prouve que ce soit la même personne, mais il n'y a rien qui l'empêche de le croire non plus. En tout cas, Sylvain ne faisait pas l'unanimité apparemment parmi les chrétiens. Et en le choisissant comme celui qui avait un secrétaire, Pierre veut montrer à tout le monde que voilà, c'est un frère fidèle. Et en même temps, à toutes ces églises qui vont recevoir la lettre, eh bien, il rappelle que ce qui est important, c'est d'être fidèle à Jésus-Christ. C'est là le seul critère que l'apôtre Pierre pose pour servir et pour servir dans l'église, être fidèle à Jésus-Christ. Voilà le critère d'acceptation. Une lettre de quelques mots. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on a une idée à faire passer, ben on va écrire un livre. C'est comme ça que ça se fait souvent. Et on a un pavé comme ça où l'auteur va exprimer son idée ou ses idées. Pierre n'a pas choisi de faire comme ça. Il a choisi de faire quelque chose de très court, de très condensé. L'intérêt, c'est que ça allait être facile à recopier, facile à être diffusé, facile à être lu. Il ne faut pas plusieurs jours ou plusieurs semaines, si on lit lentement, pour prendre connaissance de cette lettre. Ça peut être fait en 30 minutes ou une heure. Voilà. On a lu la lettre de Pierre et elle est accessible également, facile à comprendre pour tout le monde. Et en même temps, il y a, si on veut creuser, beaucoup, beaucoup de profondeur, beaucoup de densité, beaucoup d'informations qu'il a fait passer là. Chaque mot a de l'importance, une lettre de quelques mots où chaque mot compte. Une lettre, nous dit-il, pour nous, l'Église, dit-il, pour vous exhorter, pour vous exhorter. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot exhorter? C'est le mot parakaleo, dans le grec, ça ne vous en dira pas plus. Ça peut être traduit appeler auprès. Appeler auprès. Et pourquoi on appelle une personne auprès de nous? C'est quand on a quelque chose de lui dire, à lui dire. Et ce quelque chose à lui dire, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une consolation. Ça peut être un encouragement. Ça peut être une exhortation. Et donc, c'est difficile de choisir. Les traducteurs ont eu du mal à choisir la façon dont on doit traduire ce mot. Et vous trouverez dans vos Bibles tantôt, ici, le mot « encourager ». J'ai voulu vous encourager, ou d'autres traduiront, j'ai voulu vous exhorter. Mais à la base, de quoi s'agit-il? Si je prends une anecdote d'un enfant qui vient d'avoir, par exemple, un vélo neuf, et puis voilà, elle a un vélo qui est un peu grand pour elle, et elle commence comme ça, et hop, elle va tomber. Elle tombe, elle se met à pleurer, elle est tellement déçue, elle s'est fait mal, et puis elle est tellement déçue d'être tombée. Elle est tellement... elle a honte d'elle-même. De quoi a-t-elle besoin à ce moment-là? Elle a besoin d'une consolation. Elle a besoin d'être consolée. C'est pas le moment de venir de lui dire « Ah, mais tu t'es pas pris comme il faut, voilà, il te faut tenir le guidon de telle manière, il te faut pédaler de telle façon, et puis il faut regarder devant toi, faut regarder où tu vas, regarde où tu mets ta roue. » Non, elle a besoin d'être consolée, de faire sécher ses larmes. Et puis après, elle aura besoin d'être encouragée. Vas-y, refais, réessaye, remonte sur ton vélo, vas-y, tu peux y arriver. Et elle a besoin d'être encouragée, et quand le courage est revenu, que ça y est, de nouveau, elle se remet, l'enfant se remet à pédaler. Et là, à ce moment-là, on peut donner les exhortations, on peut donner les instructions. Voilà comment il te faut faire. Voilà, si tu fais comme ça, tu verras, tu ne tomberas plus. C'est à ce moment-là qu'elle va bien, l'enfant va bien écouter et comprendre. Donc, l'apôtre Pierre nous appelle. C'est comme s'il nous appelle auprès de lui. Imaginez l'apôtre Pierre qui vient, qui rentre, qui dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, approchez-vous. J'ai quelque chose pour vous, approchez-vous. Et là, toute l'église va s'approcher de lui attentivement. Ah, il y a quelque chose que l'apôtre va venir pour nous spécialement. C'est ça, la consolation, l'encouragement, l'exhortation, suivant ce dont on a besoin. Et ce même Pierre, peut-être que après, voilà, tout le monde parle, tout le monde discute, et puis il appelle l'un d'entre nous, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Viens, approche-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et là, c'est pas pour toute l'Église, c'est pour moi, personnellement, que l'apôtre Pierre a une parole, a un mot. Voilà ce que veut faire l'apôtre Pierre avec cette lettre. Voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait que l'Église qui reçoit la lettre s'approche de lui, l'écoute pour être consolée, pour être encouragée et pour être exhortée à aller plus loin. Comment ça se traduit? Comment il fait dans sa lettre? C'est intéressant de revenir un petit peu en arrière, regardez ça. Hein. Voilà une parole de conseil. Je voudrais rester sur le thème de la souffrance qui revient partout dans sa lettre. Et au chapitre 1, versets 3 à 5, il écrit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être réveillé dans le dernier temps. » Voilà une parole de consolation. Il vous est réservé dans les cieux par la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes performances. Ça dépend de Dieu. Et ce salut est gardé, et cet héritage est gardé, réservé dans le ciel. Voilà une consolation. Et après, il y a un encouragement. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez à lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Un encouragement. Et après vient une exhortation, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. À la fin du chapitre, un petit peu plus loin dans le chapitre, verset 21. Par lui, par Jésus, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi, notre espérance repose sur Dieu, pas sur ce que nous pouvons arriver à faire de bien, pas sur les sentiments que nous avons dans notre cœur, mais notre foi, notre espérance repose sur Dieu lui-même. C'est quelque chose de très solide. Et on peut être consolé avec cette parole quand on est chuté, quand on a tombé, quand on est dans l'échec. Chapitre 3, verset 12, tournons une page. Encore là, une consolation. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Il écoute les prières. Il est attentif aux prières. Par contre, pour les mal, pour les méchants, c'est le contraire. Ceux qui font le mal, le Seigneur est contre eux. Ceux qui font le, ce qui sont justes, il est pour eux. Verset 13, ça c'est la consolation. Et le verset 13, l'encouragement. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Ne soyez pas troublés. Ceux qui vous font du mal. Et ensuite, le verset 15 à 17, l'exhortation, sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque demande raison de l'espérance qui est à vous. Ayez une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Chapitre 4, verset 1. Une autre exhortation. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. C'est se préparer pour le combat. Chapitre 4, versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il paraîtra. Mes bien-aimés. Cette petite phrase, cette petite introduction est tellement importante ici. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. Un encouragement à persévérer dans cette fournaise. Et puis, après, il y a une exhortation qui suit. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur puisse être imprégné dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est maintenant de ce nom. C'est maintenant que le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Combien il était important que l'apôtre commence par ces paroles. Mes bien-aimés, mes bien-aimés. Chapitre 5, versets 10 et 11. 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une parole de consolation pour celui qui est trop chargé, pour celui qui est débordé, pour celui qui est sous l'eau, qui croule sous son fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et il continue par un encouragement. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qu'il dévorera. Et une exhortation, Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et pour terminer, une belle consolation, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Une lettre pour consoler, pour nous encourager, pour nous exhorter. Une lettre aussi pour nous rassurer. Chapitre 5, verset 12. On lit. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Pierre veut attester que l'on ne s'est pas trompé, qu'on n'est pas à côté de la plaque. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Est-ce que ça vous arrive que le doute vous envahit? Des fois, ici, on peut se retrouver, on est tellement peu nombreux. On a tellement du mal à ce que tout le monde soit là le même jour, qu'on soit enfin une fois tous ensemble. Bien souvent, il manque une personne, il manque l'autre. Notre foi est aussi suspecte. On est taxé d'arriéré, on est taxé de trumpiste malfaisant, de faiseur de troubles. Et on a l'impression, mais c'est une impression, que notre société accepte n'importe quelle autre spiritualité plutôt que le christianisme. Tout sauf le christianisme. C'est l'impression qu'on a. Ce n'est pas la vérité. Et on va plus loin en se disant, si finalement, c'était le monde qui avait raison. Est-ce qu'il ne serait pas bien de lui faire de la place dans notre façon de voir? Il faut nous moderniser un petit peu, nous adapter à l'ère du temps. Et on peut aller encore plus loin, finalement, à quoi sert notre Église? Quel rôle on a? Pierre veut nous attester non. Non, il veut nous insister avec toute son autorité apostolique. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Qui êtes si peu nombreux, si dispersés, si clairsemés, à droite, à gauche. Vous êtes, vous, dans le vrai. Restez-y. La grâce de Dieu, c'est la vraie. Celle que vous tenez, celle que vous avez avec vous. La grâce de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin devant la dureté de la vie. La dureté de la vie, elle vient du péché qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. On peut penser à ceux qui sont détruits par les bombes, ceux qui sont mutilés, leurs membres déchiquetés. Ils ne veulent pas tout ça, mais voilà, ça leur tombe dessus. Ça, c'est au loin et au proche. Comme destruction, on sait qu'il y a des personnes qui se laissent détruire, qui se détruisent eux-mêmes, pas besoin de bombes, ils prennent toutes sortes de produits, de drogues, de trucs, de produits pour leur malheur, qui les détruisent d'alcool ou d'autres substances, ou d'autres comportements addictifs. Ils se détruisent eux-mêmes. On a besoin de la grâce de Dieu par rapport à ça. Ça peut être la solitude, ça peut être l'isolement, ça peut être le rejet, ça peut être de se voir vieillir, ça peut être le sentiment de culpabilité, ça peut être la honte, ça peut être l'incapacité de saisir le bonheur, ça peut être de faire tout ce que l'on peut, mais voilà, il manque toujours quelque chose et on se sent pas capable. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Ce Dieu qui est infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant, la grâce de ce Dieu qui est saint, qui est juste, qui est séparé du mal. La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable, dit l'apôtre Pierre, la véritable grâce de Dieu. Alors, quelle est-elle? Il en a parlé dans son épître, surtout dans l'introduction que Patrick nous avait présentée au début. Je la relis dans la Nouvelle Bible Seconde, chapitre 1, versets 1 à 9. On va commencer par les 5 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis, qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang du Christ. Deux points. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et il parle tout de suite après de cette grâce. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Hier, la grâce de Dieu qui nous a fait naître de nouveau, Dieu qui nous a, par le baptême en sa mort et en sa résurrection, qui nous a conduit des ténèbres à la lumière, qui a fait mourir cette ancienne vie pour nous donner une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'était hier. Aujourd'hui, il nous a fait naître de nouveau. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous donne une espérance vivante, certaine. Et Patrick nous avait souligné quelle est l'œuvre du Père qui nous a choisis. Ça dépend que de lui. Quelle est l'œuvre du Fils qui a versé son sang pour nous. Et l'œuvre du Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous sanctifie aujourd'hui et demain. La grâce de Dieu nous accordera un salut complet, nous fera bénéficier de l'héritage céleste qui est maintenant tenu en réserve pour nous. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, s'il y a une vraie grâce de Dieu, ça sous-entend qu'il y a aussi de la fausse, il y a aussi des faussaires. Lisons le verset 6. Ainsi vous êtes transportés dans l'aigresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut attrister par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Alors, il y a une fausse grâce. Celle qui considère que le sang de Jésus-Christ versé hier ne sera pas suffisant pour demain nous conduire, nous assurer l'entrée dans la présence de Dieu. Une fausse grâce, la grâce du salut par les œuvres. Il y a aussi la fausse grâce que l'héritage céleste qui est prévu demain soit pour aujourd'hui. C'est pas ce qu'a enseigné l'apôtre Pierre du tout. L'héritage céleste, c'est pour demain, c'est pour le retour de Christ. C'est pas un évangile qui nous enseigne que c'est pour aujourd'hui que vous allez pouvoir jouir de bonnes choses grâce à l'évangile. la fausse, il y a aussi une fausse grâce qui enseigne que si on a des épreuves, si on est triste, c'est parce qu'on a du péché et que l'on n'est pas béni. Dieu peut pas nous bénir parce qu'on a du péché, alors on est dans la tristesse. On est dans l'épreuve. C'est pas ce qu'enseigne l'apôtre Pierre. Loin de là, c'est aussi une fausse grâce. Et il y a aussi une fausse grâce qui enseigne que la foi en Jésus-Christ n'est pas suffisante pour avoir la joie. Pour avoir la joie, Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il faut le développement personnel. C'est très à la mode aujourd'hui, le développement personnel. On regarde un petit peu de haut l'évangile de prospérité qui est si attirante pour les personnes qui n'ont rien. Nous qui avons tout, eh bien nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement personnel. Moi. Voilà. Qu'est-ce que l'évangile peut m'apporter à moi? L'apôtre Pierre, c'est loin de sa pensée, tout ça. On a l'impression que c'est même pas le développement personnel, c'est même pas dans sa pensée. Tout c'est il faut penser à soi pour être heureux. Non, le bonheur, il est en Jésus-Christ. Tous ces faux enseignements trébuchent, ils supportent pas ce qu'écrit Pierre. Chapitre 2, verset 13, par exemple. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances de Christ, afin que vous vous réjouissiez, soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Et plus loin, au verset 19, c'est une grâce que de supporter les afflictions pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement, en effet. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis une faute? Mais si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce que de supporter les afflictions. C'est une grâce que la souffrance, quand on fait ce qui est bien. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre veut encore nous enseigner un petit quelque chose sur la salutation chrétienne et la communion fraternelle, la communauté de ceux qui sont choisis. Il veut bâtir des connexions entre Babylone, l'Église de Babylone et l'Église qui reçoit la lettre ici. Et puis, il va y avoir beaucoup d'églises qui vont recevoir cette lettre-là. Et voilà, il veut qu'il y ait des salutations. Alors, c'est facile de comprendre que la ville de Babylone, ben, pour beaucoup, c'était la ville de Rome, qu'elle avait coché beaucoup de cases, surtout en lisant le livre d'Apocalypse n'était pas encore écrit à cette époque, mais voilà, l'idée devait être déjà là, présente. Mais toutes ces Babylones peuvent être aussi comprises comme autant de villes où les chrétiens sont en exil, où ils ne sont pas chez eux, où ils soupirent après leur vraie patrie, d'aller à la vraie patrie céleste. Comme nous, peut-être aussi ce matin. Alors c'est bon d'avoir des connexions avec les autres églises. C'est un souci apostolique qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul aussi, là où il écrivait, il y avait toujours des frères qui envoyaient une salutation avec la lettre. Même s'il y a des Sylvains à Babylone, même s'il y a des Sylvains à Babylone, des gens qui ne sont pas tout à fait sous notre même ligne doctrinales sont fidèles. Et voilà, les salutations passent. Ceux de Babylone vous saluent. Se saluer. Alors, dans l'Antiquité, c'était pas une petite affaire, comme dans beaucoup de pays également aujourd'hui. Aux États-Unis, ça fait aïe, deux lettres pour faire une salutation. C'est vraiment court et rapide. Aïe. On ne peut pas faire plus bref, je crois. Time is money. Pas le temps de se saluer, passer du temps à faire des salutations. Juste une petite exclamation comme ça et on rentre dans le vif du sujet. La salutation, voilà comment le définit le dictionnaire clé. Elle était utilisée pour ceux qui accostent quelqu'un d'autre, qui vont faire une courte visite, montrer son respect pour une visite. Les salutations ne consistaient pas dans un simple geste amical, quelques mots, mais dans de grandes embrassades. Un voyage était souvent retardé par la manifestation des adieux. On a un exemple là, j'ai trouvé dans l'évangile de Marc. Luc écrit, achevant notre navigation, nous allâmes à Tyr à Ptolémaïs, et nous saluâmes des frères. Et nous passâmes un jour avec eux. Ils sont là, ils passent avec les frères, ils passent un jour entier avec eux. Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais je trouve que c'est dommage que les églises n'aient pas du temps pour s'écrire les unes aux autres, pour s'échanger des lettres l'une à l'autre. Des fois, on fait des lettres de nouvelles, c'est vrai, mais ça peut être un beau ministère que d'envoyer des lettres de nouvelles, de recevoir des lettres de nouvelles et les partager à l'église, de différentes églises que l'on peut connaître, celles qui sont proches, celles qui sont loin, ou de ceux qui travaillent au loin, les missionnaires que l'on envoie, donner des nouvelles et en prendre, passer du temps dans les salutations. Et ici, il veut une mise en pratique de l'enseignement de Pierre, ensuite, pour terminer. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, pardon. Que la paix soit sous vous tous qui êtes en Christ. Un baiser d'affection, un baiser d'amour. L'apôtre Paul utilise un saint baiser pour le différencier de ce qui peut être fait de ce qui peut se faire dans le monde. Pour Pierre ici, c'est un baiser d'amour. Et l'amour qui a une place dans sa lettre. Chapitre 1, verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous de l'amour de Dieu agapé. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Chapitre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Chapitre 4, verset 8. Ayez, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. L'importance de l'amour dans la lettre de Pierre. Et voilà, dans un instant, on va se saluer. Et puis, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Tout de suite, il veut que les choses soient mises en pratique, que son enseignement soit mis en pratique tout de suite, à la fin de la lettre. Voilà. Et nous sommes à la fin du culte, et puis on va aussi pouvoir se saluer avec amour. Alors, je ne vous demande pas que chacun s'embrasse. On l'a déjà fait, la plupart d'entre nous en arrivant. Mais de passer le temps, comme on le fait déjà, comme on le fait si souvent, de passer du temps, discuter les uns avec les autres pour se donner des nouvelles, se parler, passer du temps. Et cela peut être fait ici dans l'église, cela peut être fait bien sûr à l'extérieur de l'église. Saluez-vous les uns les autres. par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Et c'est ici que s'arrête la lettre de Pierre. Prions. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Merci pour l'Esprit Saint qui a inspiré cette lettre à Paul, à Pierre. Merci Seigneur pour les encouragements qu'on trouve, les consolations qui y sont dans les moments de difficulté. Nous trouverons là des versets pour nous consoler. Nous trouverons là des versets pour nous encourager à continuer, à poursuivre, même quand c'est difficile. Et nous, quand nous nous sentons forts, c'est là que nous allons trouver également des versets pour nous exhorter à aller vers l'excellence, à faire encore des progrès, à être sérieux, à ne pas nous relâcher, à ne pas passer en mode roue libre, comme sur les vélos, mais à continuer à pédaler avec la crainte de Dieu. Merci également pour le souci de Pierre de nous affermir dans la vérité de l'Évangile, dans cette grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Et il passe du temps, tellement de temps dans sa lettre à parler de Jésus, je ne l'ai pas fait ce matin. Jésus prend une telle place dans sa lettre. Et merci pour le salut, ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes. Merci pour cette espérance qui nous donne dès à présent et dès aujourd'hui cette joie du Saint-Esprit et cette promesse de cet héritage céleste dont on n'a aucune connaissance, mais qui sera infiniment plus précieux et plus merveilleux que tout ce que nous pouvons trouver ici-bas sur la terre maintenant. Merci pour cette dernière salutation également, que la grâce et la paix soient avec nous. Amen. Viens, Seigneur Jésus.